VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du vendredi 29 mars 2019. Abdourahman Diaye et Eke Abadou à la présentation, voici les titres.
Le commandant de la force G5 Sahel déplore le manque d'équipement majeur pour faire face aux groupes armés.
Nouvelle journée de manifestation en Algérie alors que d'anciens compagnons du président Bouteflika continuent de le lâcher.
Visite samedi du pape François au Maroc, le souverain pontife compte y retourner, rencontrer des migrants.
C'est aujourd'hui, 29 mars, que la Grande-Bretagne devait officiellement quitter l'Union européenne, mais les députés britanniques ont rejeté pour la troisième fois le traité de retrait du Brexit.
En seconde partie, nous reviendrons entre autres sur la levée de la suspension de l'installation des nouveaux sénateurs.
C'est un président qui n'a pratiquement pas de sénateurs, qui a environ 15% de membres dans le Parlement. Et on sent qu'il aura une marge manœuvre assez limitée.
Et dans une dizaine de minutes, la page économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
La force anti-djihadiste G5 Sahel, qui a mené 5 opérations depuis le début de l'année, a eu son premier contact avec des terroristes. Son commandant déplore le manque de moyens, Claire Morin-Gibourg.
Le contact a été confirmé par le général mauritanien Anena Ould Sidi, commandant de la force G5 Sahel. Une fois, nous avons été en contact avec des terroristes qui ont été surpris. Ils ont pu s'échapper pour certains. Nous en avons pris un avec son arme et sa moto, a-t-il dit, sans préciser la date de cette opération et dans quel pays elle s'était déroulée. La force G5 Sahel, lancée formellement en juillet 2017, doit à terme comprendre 5000 hommes. Selon le général Anena Ould Sidi, cette force comprend actuellement 4000 hommes, mais des équipements majeurs manquent encore. Selon des sources diplomatiques, le financement de la force, longtemps problématique, est en bonne voie avec des premiers décaissements. Le coût de la création de la force a été estimé à quelque 400 millions d'euros, avec un budget de fonctionnement annuel évalué entre 90 et 110 millions d'euros. Selon un accord technique conclu l'année dernière, la MINUSMA devrait apporter un soutien logistique au G5 Sahel.
En Algérie, pour la 6e semaine consécutive, les manifestants continuent de réclamer le départ du régime quelques jours après la proposition du chef d'état-major de l'armée d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika du pouvoir. À Alger, la police a eu recours aux canons à eau et aux gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Bouteflika, tu partiras, amène Gaïd Salah avec toi. On scandait les manifestants ou FLN dégage en référence au Front de Libération Nationale, parti au pouvoir. Le cortège où domine comme chaque vendredi les couleurs du drapeau national reprend aussi en chœur le refrain de la chanson La Liberté du rappeur algérien Soul King dédié au mouvement populaire. Mardi, le général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a proposé la mise en œuvre de mécanismes constitutionnels pour écarter le chef de l'état du pouvoir afin d'apaiser la contestation. Les manifestants ont toutefois rappelé qu'ils souhaitent le départ de l'ensemble du régime et pas seulement celui du chef de l'État. Plusieurs soutiens de la contestation, comme l'avocat Mustapha Bouchachi ou la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, s'opposent à la proposition de l'armée. L'essentiel des soutiens de M. Bouteflika ont rallié la proposition de l'armée et le président, âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 20 ans, apparaît de plus en plus isolé, même s'il est toujours en fonction.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a présidé ce vendredi son premier conseil des ministres depuis son retour à Libreville le 23 mars, après 5 mois d'absence quasi ininterrompue à la suite d'un AVC.
République démocratique du Congo, 2 foyers de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola ont été réactivés dans l'est du pays après une accalmie de 3 semaines, c'est ce qu'ont indiqué les autorités du pays.
Toujours concernant la République démocratique du Congo, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a exhorté les autorités congolaises à la veille d'élections dimanche dans le territoire de Yumbi, théâtre d'un massacre en décembre, à prendre des mesures sécuritaires et d'apaisement pour éviter de nouvelles violences pendant et après ce scrutin.
Le Burundi a annoncé ce vendredi le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation de la radio britannique BBC, dont la diffusion FM était suspendue depuis près d'un an, et le maintien jusqu'à nouvel ordre de la suspension de la Voix de l'Amérique. Dans les deux cas, il est formellement interdit à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la BBC ou la Voix de l'Amérique, ce qu'a déclaré le Conseil national de la communication chargé de réguler les médias au Burundi.
Par ailleurs, le Burundi a entamé ce vendredi la libération de quelques 3000 prisonniers dans le cadre d'une grâce présidentielle, essentiellement pour désengorger les prisons, selon la société civile en exil. C'est la troisième fois que le président burundais accorde sa grâce présidentielle à des détenus depuis le début de la crise.
Un journaliste soudanais arrêté il y a plus d'un mois pour avoir critiqué l'état d'urgence imposé par le président Béchir a été libéré ce vendredi. L'état d'urgence a été imposé le 22 février dans tout le pays, en proie à une grave crise économique et où des manifestations ont été déclenchées le 19 décembre après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain.
Aux Comores, le responsable de l'opposition arrêté jeudi pour avoir contesté la réélection à ses yeux frauduleuse du président Azali Assoumani était toujours entendu ce vendredi par les gendarmes. C'est ce qu'on a appris auprès de son entourage.
Comme au Zimbabwe, deux rescapés du cyclone Idai ont été tués. 11 autres blessés après avoir été percutés par un camion militaire qui venait de leur distribuer de l'aide humanitaire. On a appris cela aujourd'hui de sources militaires.
Le pape François est attendu samedi et dimanche au Maroc, terre musulmane prônant le dialogue interreligieux. Il s'agira d'une courte visite qui le verra aussi rencontrer des migrants, alliant ainsi deux grandes priorités de son pontificat. Les précisions de John Lyndon.
Dans un message vidéo adressé au peuple marocain, le pape François a annoncé les couleurs de cette visite. « Je viens un pèlerin de paix et de fraternité dans un monde qui en a tant besoin », a-t-il commenté. Le souverain pontife estime que chrétiens et musulmans croient en un Dieu miséricordieux, un Dieu qui veut qu'ils vivent en frères en respectant leur diversité, a-t-il dit. Le pape, qui est presque devenu spécialiste des voyages dans les plus minuscules communautés catholiques du globe, est également attendu avec impatience par une communauté de quelque 30 000 fidèles. Il s'agit essentiellement d'étrangers venus d'Afrique subsaharienne, d'étudiants ou de migrants en route vers le continent européen. Dans son message vidéo, le pape a également indiqué qu'il est venu encourager le cheminement de la communauté chrétienne et rencontrer les migrants. Les migrants qu'il rencontrera samedi et qui représentent un appel à construire ensemble un monde plus juste et plus solidaire. Dimanche, environ 10 000 catholiques sont attendus pour une messe dans un centre sportif, un chiffre historique pour une célébration catholique dans ce pays à 99% musulmans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les députés britanniques ont rejeté pour la troisième fois le traité de retrait de l'Union européenne négocié entre Londres et Bruxelles. Le Royaume-Uni fait face à deux options, un Brexit sans accord le 12 avril ou un long report du divorce. Morgan Guiriec.
Destiné à mettre en œuvre en douceur un Brexit décidé par référendum en juin 2016, le traité a été rejeté par 344 voix contre 286. Ce vote est un désaveu pour la première ministre conservatrice Theresa May, qui a âprement négocié le texte de près de 600 pages pendant de longs mois avec Bruxelles et pose la question de sa survie à la tête de l'exécutif. L'adoption de l'accord était censée permettre au Royaume-Uni de quitter le giron de l'UE le 22 mai avec une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 afin d'éviter une rupture trop brutale de liens tissés pendant 46 ans. Elle aurait offert aux Britanniques une sortie de crise après ces mois d'incertitude et de disputes quant à la forme que prendra le Brexit. Ironie de l'histoire, ce vote a eu lieu le jour même où le Royaume-Uni aurait théoriquement dû quitter l'Union européenne ce vendredi 29 mars, mais Londres avait obtenu des dirigeants européens un report pour sortir de l'impasse au Parlement.
Les États-Unis ont une nouvelle fois mis en garde la Russie contre le déploiement de militaires au Venezuela, réaffirmant leur détermination à défendre leurs intérêts et ceux de leurs partenaires dans la région. La Russie a d'ailleurs demandé hier à Donald Trump de ne pas se mêler de ses relations avec le Venezuela.
La Turquie dénonce les pressions américaines visant à dissuader la Turquie d'acquérir un système de défense militaire russe, les qualifiant de contraire au droit international. Nous avons signé un accord avec la Russie. Cet accord est valable. Nous sommes maintenant en train de discuter de la livraison, a déclaré le chef de la diplomatie turque. La commande turque du dispositif de défense antimissile et antiaérienne russe S-400 empoisonne depuis plusieurs mois les relations entre Ankara et Washington, tous deux membres de l'OTAN.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Talani.
La Société nationale angolaise de production de pétrole et du gaz, la Sonangol, lance son tout nouveau navire de forage, le Libongos. Pouvant mener des opérations en eau profonde et ultra profonde, ce navire est censé générer près de 1200 nouveaux emplois pour l'Angola, qui attend un autre navire, le Kengelas. Par ces projets, le pays entend développer une industrie nationale solide et augmenter la capacité de raffinage domestique afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations. Le russe Norgold, l'un des principaux producteurs mondiaux d'or, a doublé le montant de ses investissements aurifères au Burkina Faso, passant de 62 millions de dollars en 2017 à 145 millions de dollars en 2018. Selon la Tribune, cette année, la société maintiendra son effort d'investissement dans le pays avec une priorité au développement des actifs et à l'exploration. Norgold opère 3 mines au Burkina Faso, Bissa, Bouli et Taparko, sur lesquelles le groupe a investi depuis 2009 plus d'un milliard de dollars. Terminons cette minute éco avec la Zambie qui reporte le remplacement de la TVA par une taxe de vente non remboursable au mois de juillet, alors que la nouvelle taxe devait initialement entrer en vigueur en avril. Selon la ministre des Finances, Margaret Mwanakatwe, le décalage doit permettre de nouvelles consultations avec les parties prenantes. Le changement vise à résoudre le problème des contribuables qui réclament la TVA en obligeant le gouvernement à émettre des remboursements.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Le Raja Casablanca a remporté la Supercoupe CAF.
Oui, victoire 2-1 pour les Marocains du Raja face aux Tunisiens de l'Espérance Sportive. Abdelilah Hafidi a ouvert la marque pour le Raja. Dès la 21e minute de jeu, Youssef Belaïli a égalisé à la 58e pour l'Espérance. Puis les Rajaouis sont revenus à la charge à la 65e grâce à une superbe talonnade de Badr Benoun. C'est le deuxième trophée pour le Raja dans cette Supercoupe CAF qui s'est jouée pour la première fois hors du continent à Doha au Qatar.
Allegri confirme que Ronaldo pourrait manquer l'Ajax.
Oui, l'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a confirmé que Cristiano Ronaldo pourrait manquer le quart de finale aller de Ligue des Champions de son équipe face à l'Ajax Amsterdam le 10 avril. La star portugaise s'est blessée lundi à la cuisse droite lors du match Portugal-Serbie. Après la partie, le quintuple Ballon d'Or s'était voulu rassurant en annonçant qu'il retrouverait le terrain dans une ou deux semaines. Les examens passés ensuite par CR7 ont montré une blessure mineure selon la Juventus.
Gonzalo Higuain annonce la fin de sa carrière internationale.
J'ai discuté avec Lionel Scaloni, le sélectionneur, et lui ai fait part de ma position. Ma décision est prise et je pense que c'est la meilleure. Je vais profiter maintenant de ma famille, a expliqué l'international argentin. En 75 sélections, Gonzalo Higuain, 31 ans, prêté par l'AC Milan à Chelsea, a marqué 32 buts pour son pays, dont 5 en Coupe du Monde. Il a été battu en finale du Mondial 2014 et de la Copa América 2015 et 2016. Champion d'Espagne avec le Real Madrid à 3 reprises en 2007, 2008 et 2012. Higuain a aussi décroché 2 titres en Italie avec la Juventus Turin, soit en 2017 et 2018. Année à laquelle il a disputé également la Ligue des Champions, la finale donc perdue face au Real Madrid.
NBA, fin de saison pour l'ailier camerounais Lungba Ambouté.
L'ailier camerounais des Los Angeles Clippers, absent depuis fin octobre, a été opéré du genou gauche et sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. D'après la franchise californienne, Lungba Ambouté, 32 ans, s'est blessé le 23 octobre lors du match opposant son équipe à la Nouvelle-Orléans. Il n'a disputé que 4 matchs cette saison. Il a rejoint les Clippers, équipe où il avait déjà évolué de 2015 à 2017. Après une saison à Houston, son contrat expire fin juin. Les Clippers, 6e de la conférence Ouest, sont qualifiés pour les playoffs.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Diaye et Kiabadou, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a levé hier sa mesure qui suspendait l'installation du nouveau Sénat pour corruption présumée. Décision prise à la suite d'un rapport préliminaire des enquêtes du procureur général de la République près de la Cour de cassation. Les enquêtes en cours visent les corrupteurs et les corrompus à ces élections. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint Bruxelles, le fondateur de DESC, Défense Sécurité Congo, et spécialiste en géopolitique Jean-Jacques Mondeau.
Sa décision montre d'abord les limites de l'action juridique du président. On pense qu'il a outrepassé ses prérogatives constitutionnelles et même juridiques. Et là, sa décision de lever ses sanctions montre que, oui, effectivement, l'action du président a une certaine limite, et une limite qui sera difficile même à manœuvrer tout au long de sa mandature.
C'est quand même un mauvais signal.
Sur le plan politique, c'est un mauvais signal, d'autant plus que quand il a pris cette mesure, les gens, même si sur le fond, il y avait des éléments qui posaient problème, mais sur le plan politique, ça avait suscité un certain espoir, aussi bien au niveau de la population de la base, de voir que le président affichait un certain volontarisme de combattre la corruption et de s'élever comme le chef de l'État, c'est lui qui dirige le pays. Mais ici, avec la décision d'hier, on voit que c'est une vraiment marche en arrière et effectivement, on peut dire que c'est une déception.
Au regard de la configuration politique, est-ce qu'on peut dire que c'est un président qui a les mains liées, qui n'est pas libre d'action?
On peut le dire. Un président qui n'a pratiquement pas de sénateurs, qui a environ 15% de membres dans le Parlement. Et on sent qu'il aura une marge manœuvre assez limitée et les mains pratiquement liées et n'aura pas d'autre choix que d'accepter une sorte de dictat de l'ancien système, donc du FCC qui entoure l'ancien président Kabila.
Le changement ou l'alternance souhaité par les Congolais, finalement, n'a pas eu lieu.
Jusqu'à présent, on ne voit pas suffisamment les effets de cette alternance. Déjà, c'est d'abord l'ancien gouvernement qui est en place. Donc, c'est un gouvernement qui a été décidé par Kabila. Et là, le président va mettre bientôt plus de 3 mois sans pouvoir constituer une équipe gouvernementale. Et l'alternance, ce n'est pas seulement le changement au niveau de la tête, au niveau de la présidence, mais c'est aussi le changement au niveau du gouvernement, au niveau du style de gouvernance, au niveau du Parlement. Et il ne faut pas oublier que l'aspiration profonde des gens qui sont allés voter, c'était de rejeter le système de Kabila. Mais on voit que ce système revient encore par d'autres mécanismes.
Il tient les leviers du pouvoir, toujours.
Il tient les leviers du pouvoir, non seulement du pouvoir, mais aussi de l'armée et probablement des finances. Donc, de pouvoir qu'on appelle régalien.
C'était Jean-Jacques Mondeau, fondateur de Défense Sécurité Congo et spécialiste en géopolitique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un an sans réseaux sociaux au Tchad, la cour d'appel de N'Djamena a confirmé hier le rejet de la plainte de la société civile qui dénonce ces restrictions, justifiant sa décision par des raisons sécuritaires. Les internautes peuvent toutefois passer par des VPN, une solution onéreuse. Plusieurs associations réclament la levée de cette mesure, estimant qu'elle viole la liberté d'expression et entrave les opportunités pour la jeunesse tchadienne. Nathalie Barge a joint la directrice exécutive d'Internet sans frontières, Julie Owono, qui réagit sur la décision de la justice.
C'est un phrase d'un déni de justice pour la société civile tchadienne, mais pour l'ensemble des citoyens tchadiens, il faut le dire, puisque ce qui était en jeu, c'était une action menée sur le fait que des milliers de personnes, représentées ici par nos avocats, ne peuvent plus jouir de leur liberté d'expression, de leur liberté de communiquer à travers des plateformes de réseaux sociaux ou alors des applications de messagerie, d'une part, et d'autre part, le fait que les consommateurs sont privés de leur possibilité d'utiliser leur forfait Internet d'une manière normale, et du coup, si subissent un préjudice qui doit être réparé normalement. Et bien là, on est triste de constater que le juge tchadien, à deux reprises, dit que sur la forme, la demande est recevable, mais sur le fond, c'est-à-dire sur les demandes qui sont présentées, et bien il n'est pas compétent. Donc on se demande bien qui est compétent si ce n'est pas le juge civil pour juger de demandes liées aux droits des consommateurs et liées à la liberté d'expression des utilisateurs tchadiens.
Hormis la liberté d'expression, vous dites aussi que cela a un coût important pour l'économie du pays et notamment entrave les opportunités pour la jeunesse tchadienne.
Bien sûr, tous les jours nous recevons des témoignages de jeunes personnes notamment qui avaient trouvé à travers les réseaux sociaux une manière de vendre leurs talents, de faire connaître leurs talents. On pense notamment à des blogueurs, on pense également à des entrepreneurs qui malheureusement se retrouvent du jour au lendemain avec la difficulté de promouvoir ces produits-là, promouvoir ces services-là, parce qu'ils ne sont plus capables comme avant de communiquer directement avec leurs clients, ou en tout cas pour pouvoir communiquer directement avec leurs clients, il faut qu'ils dépensent encore plus d'argent, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir continuer à accéder aux réseaux sociaux, eh bien beaucoup de Tchadiens sont obligés d'utiliser ce qu'on appelle des VPN, ce sont des outils tiers, techniquement, qui vous attribue une adresse IP qui n'est pas la vôtre, donc qui n'est pas localisée dans le pays où vous êtes réellement. Ce qui fait que finalement, vous consommez 2 à 3 fois plus rapidement le forfait Internet que vous consommeriez normalement. Donc cette censure, elle fait également fuir les entreprises, puisqu'il faut savoir que l'un des opérateurs principaux, qui est Tigo Tchad, qui a été sollicité par les autorités tchadiennes pour mettre en œuvre cette censure de manière technique. Eh bien, cet opérateur qui était longtemps détenu par une entreprise suédoise qui s'appelle Millicom, un groupe suédois, eh bien, ce groupe a décidé de se désengager du Tchad, en partie en raison de ses contraintes politiques, quelque part. On peut comprendre que pour des opérateurs économiques, ce n'est pas intéressant d'opérer dans des environnements répressifs comme cela. On n'a pas d'exemple similaire dans le monde où pendant un an, des gens ne peuvent pas se connecter normalement à un site aussi simple et basique que Facebook ou que Twitter.
C'était Julie Owono, directrice exécutive d'Internet sans frontières.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le 7 avril, le Rwanda va commémorer le 25e anniversaire du génocide de 1994, dont le traumatisme est encore loin d'être effacé malgré tous les progrès accomplis en un quart de siècle par ce pays de la région des Grands Lacs. Construire l'unité nationale et durable demeure cependant la priorité des autorités de Kigali et des populations. Le point avec Irénée Hermanongbo.
Pour les plus de 12 millions de Rwandais, la période de commémoration du génocide est chaque année sombre. Même si le pays offre un environnement dans lequel Hutu et Tutsi cohabitent en toute symbiose, les rescapés du carnage se souviennent toujours des bruits et des images d'Inramwe, cette milice qui a donné le ton des tueries. Après le génocide, le défi majeur des autorités rwandaises a été et demeure la construction de l'unité nationale. Jean Damascène Bizimana, secrétaire général de la Commission nationale de lutte contre le génocide.
Donc, il a été question pendant les 25 dernières années de ramener tous les Rwandais à comprendre que nous partageons un même pays, les mêmes droits. Et donc, la construction d'un état de droit était un défi essentiel et capital sur lequel le Rwanda a travaillé ces 25 dernières années.
Le thème des commémorations est souvenir, unité et renouveau. L'accent est mis cette année sur la jeunesse qui n'a pas vécu le génocide, mais continue à en subir les conséquences. Des groupes de discussion sont prévus ainsi que des veillées. Les survivants nettoient en terre à nouveau des eaux de victimes, évaluées même 25 ans après, à minima comme l'indique Jean-Baptiste Damascène Bizimana.
Le génocide a emporté plus d'un million de victimes. Nous avons dénombré en 2002 1 074 017 personnes. Ça, c'est le chiffre qu'on a dénombré en 2000 et qui ont été punis en 2002. Mais nous pensons qu'ils vont au-delà. Parce qu'il y a des victimes qu'on n'a pas pu savoir où ils ont été jetés. Et donc, ce défi de justice était aussi un défi considérable. La réconciliation a franchi des pas très importants. Hein, des pas très importants parce que, d'abord, vous voyez, le pays est un pays entièrement pacifié, où la population a confiance aux autorités du pays, à ses gouvernants. Là, c'est un pas très important. Et la population, maintenant, ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir poursuivre le chemin du progrès.
En l'espace d'une génération, le Rwanda a beaucoup réalisé, devenant un pôle de stabilité politique, faisant d'un pays en ruine une économie robuste et en retrouvant une certaine cohésion sociale. Dans la quête de réconciliation, la justice a joué un rôle crucial. Des dizaines de responsables du génocide ont été condamnés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et quelques 2 millions de Rwandais ordinaires ont été jugés par les tribunaux populaires.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Zimbabwe, un an et demi après la chute de Robert Mugabe, les espoirs de changement sont déjà perdus. L'économie se porte mal, la répression de toute opposition se poursuit sous le nouveau régime, mais de jeunes comédiens zimbabwéens défient le pouvoir par l'humour. Plusieurs d'entre eux ont été intimidés, arrêtés et ont dû payer des amendes, mais ils continuent d'utiliser la satire comme moyen de résistance et sont de plus en plus populaires. C'est un reportage sur place de Patricia Huon.
Des sketchs humoristiques diffusés sur Internet pour parler de problèmes de société et de politique. Au Zimbabwe, une génération de jeunes acteurs et créatifs utilise le rire pour aborder des débats sensibles et dénoncer les abus.
We are setting up to film a sketch featuring.
On prépare un sketch qui représente le diable. À cause de la politique zimbabwéenne, le président, cette semaine, a comparé son opposant au diable.
Leur vidéo attire aussi l'attention des autorités qui n'apprécient pas toujours leur franc-parler. Fin février, deux jeunes comédiennes sont arrêtées chez elles par la police. Gognetti, l'une d'entre elles, raconte.
Ils m'ont emmenée au commissariat central pour m'interroger. Là, ils m'ont dit que c'était parce que j'avais fait un sketch où je portais un uniforme de police. Ils m'ont dit que je parlais des brutalités policières et que je n'étais pas censée faire cela, que je devais plutôt parler des bonnes choses que fait la police.
Après quatre décennies sous le régime autocrate de Robert Mugabe, le Zimbabwe tente de s'affranchir de cette main de fer. Mais après une brève période d'espoir et d'euphorie, le nouveau président Emmerson Mnangagwa et les militaires qui l'entourent ont montré qu'ils n'avaient pas rompu avec les méthodes répressives de leurs prédécesseurs. Outspoken est l'un des premiers artistes zimbabwéens à avoir utilisé la comédie pour dénoncer les dérives du pouvoir il y a déjà une dizaine d'années.
Si tu manifestes, la répression de l'État est tellement brutale que ça pourrait faire penser à un pays en guerre. Cette intimidation qui rappelle que, à n'importe quel moment, tu peux disparaître, être condamné. Ça crée une certaine forme d'autocensure. Et ça se passait avant le coup d'État comme après. Je ne vois pas de différence.
Dans ce contexte répressif, une certaine résistance s'organise. En ligne, la satire devient une arme de la liberté d'expression. Les sketchs de Maggie et de sa collègue Gognetti sont suivis chaque semaine sur YouTube par des fans de plus en plus nombreux.
Avec tout ce qui se passe au Zimbabwe, nous pourrions être une nation de dépressifs. Mais dans notre culture, il y a ces gens qui offrent un soulagement via l'humour, des blagues, et les gens peuvent les interpréter comme ils le veulent, y compris si on parle politique.
Depuis son élection en juillet 2018, Emmerson Mnangagwa a fortement perdu en popularité. Une récente intensification de la répression des voix dissidentes a ruiné les espoirs de changement de la population. Patricia Huon, de retour de Harare, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Lionel Gaimard. À la console, Rob McLean. À la présentation, Ekiabadou et Abdourahman Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.